Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ce journal partira de Butembo avec cette bonne nouvelle de santé. Un cas de Ebola vaincu. La personne bienheureuse est une femme allaitante. Toutes les prières sont de voir maintenant le petit bébé être aussi indemne. Dans ce journal, vous suivrez l'interpellation de la coordination de la protection civile vis-à-vis de la femme congolaise. Celle-ci a été appelée à donner plus de valeur au mois de mars lui réservé. Lui est notre invité pour cet après-midi, professeur Mouniambe Ninyembo, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu à Bukavu. En fin de ce journal, il va s'entretenir avec Sadiq Aboubakar sur la gestion des finances publiques. Radio Okapi, chaque jour à la collecte des nouvelles de votre milieu pour les mettre au grand jour. Ce travail, nous le faisons avec passion et voilà pourquoi vous nous faites confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bon après-midi à toutes et à tous. D'abord, cette nouvelle du Parlement, élection du bureau définitif du Sénat. Une plénière est prévue ce lundi 1er mars pour auditionner le discours des candidats à l'élection du nouveau bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Aujourd'hui, les candidats présidents, deuxième vice-président et rapporteur devront s'adresser à leurs électeurs qui ne sont que leurs collègues sénateurs dans le cadre de la campagne électorale. Les candidats rapporteurs adjoints, questeurs adjoints, se sont adressés, l'ont fait dimanche dernier au cours d'une plénière. L'élection et installation des membres du bureau définitif interviendront ce mardi 2 mars 2020. Ils vont remplacer les 6 membres du bureau de Tambwe Mamba, démissionnaires, après dépôt des pétitions contre eux pour leur déchéance. Seule la plénière avait rejeté la pétition contre le premier vice-président Sami Badibanga. Revenons à cette édition avec le premier titre. Au Nord Kivu, 2 malades d'Ebola viennent d'être déclarés guéris à Butembo. Parmi ces personnes, on trouve une femme allaitante dont le bébé est sous observation en tant que contact à haut risque. D'après le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, qui l'a dit dans un point de presse tenu ce lundi à Butembo, leur sortie du centre de traitement d'Ebola est prévue pour le mercredi prochain. Docteur Nzanzu Salita annonce pendant 3 nouveaux cas confirmés d'Ebola dans la zone de santé de Butembo. On l'écoute dans ses propos recueillis par Flo.
Nous avons eu des guérisons. Il y a en fait un enfant d'un guéri qui doit sortir du contact demain. Mais la maman avait son enfant qui est contact. Le contact est suivi pendant 21 jours. Il était à la crèche, c'est-à-dire séparé. Et il va finir maintenant son suivi demain à minuit. La maman était déjà guérie avant, mais c'est son enfant qui suivait. Il était encore en observation à la crèche pour raison de suivi, parce qu'il est contact de sa mère. Nous pourrions donc sortir et sa mère et l'autre guéri, compris ce contact du site de prise en charge. En ces jours, en rapport avec la maladie à virus Ebola, le décompte est de 11 cas confirmés. Vous allez constater que nous avons ces jours 3 nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola et qui sont encore vivants. Nous avons déjà eu 4 décès et des 4 malades qui suivaient encore les soins. Ce qui est encore à préciser, c'est que les 3 nouveaux cas ici sont liés au 6e cas. Ils sont membres de la famille du 6e cas qui était décédé. Donc, ils sont contacts. Et ils étaient au 11e jour de suivi.
À Ituri, plus de 210 cas de décès maternels sont enregistrés depuis 2020, dont 32 cas pour les deux premiers mois de l'année 2021. Pour réduire la mortalité maternelle, 36 sages-femmes de différentes zones de santé de l'Ituri et de la Tchopo ont reçu une formation sur le renforcement des capacités de la conduite d'une grossesse. Une formation organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Au cours de la cérémonie de clôture de cet atelier le week-end dernier, le représentant de cette agence onusienne a exhorté ses prestataires sanitaires à faire preuve du professionnalisme afin de sauver des vies. Explication avec Ezekiel Mouzalia.
Au cours de cette formation, des prestataires sanitaires de l'Ituri et de la Tchopo ainsi que des pays voisins ont échangé sur l'amélioration de la prestation de la sage-femme en vue de réduire les taux de complications de la grossesse en situation d'urgence. 30 sages-femmes de l'Ituri et 6 de la Tchopo ont reçu cette formation en vue de contribuer à la réduction des cas de décès maternels. Joseph Nakikulila.
Là où vous êtes affecté, faites en sorte qu'il n'y ait pas de décès maternel, qu'il n'y ait pas des cas de femmes qui manquent des soins au moment voulu. Faites en sorte que quand les femmes ont besoin de vous, que vous soyez quand même la sage-femme modèle.
Par ailleurs, la présidente de l'association des sages-femmes en Ituri renseigne que des défis sont encore énormes. C'est par exemple le non-accès de la sage-femme dans les maternités qui l'empêche de bien jouer son rôle. Boumareta.
La sage-femme ne se retrouve pas dans sa place. Nous retrouvons dans de nombreuses maternités des infirmiers qui n'ont pas la compétence pour la pratique des sages-femmes. Mais la sage-femme se retrouve à la pharmacie, au laboratoire. Et si nous continuons ainsi, quel sera le sort de nos pauvres mamans?
Signalons que de nombreuses structures sanitaires ne disposent pas d'équipements adéquats pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous parlons encore de la femme qui doit s'approprier de la journée mondiale de la protection civile et valoriser le mois qui lui est réservé, le mois de mars. C'est le message du coordonnateur de la protection civile dans la région de Béni. Jean-Paul Capitoula l'a dit ce lundi à Béni alors que sa structure déposait un document de contingence à la section des affaires civiles de la MONUSCO Béni. Ceci pour qu'ensemble des plaidoyers soient menés pour prévenir les catastrophes naturelles. Si cette journée se célèbre au jour qui commence le mois de la femme, c'est une valeur à privilégier par la femme et à se battre aussi pour la protection des civils. Jean-Paul Capitoula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Béni, est ici au micro de Marc Marofimbo.
Le mois de la femme commence par la journée mondiale de la protection des civils. Et c'est la femme qui protège, c'est la femme qui nous garde, c'est la femme qui nous a mis au monde tous. Donc, je crois que la femme doit s'approprier et doit se sentir fière. Nous pouvons recommander aux femmes de faire mieux, que ça ne reste pas toujours dans les jubilés, dans les marches, dans les festivités, mais plutôt que cette révolution que les femmes ont manifestée en réclamant aussi la participation égale de la femme et de l'homme dans la gestion de la chose publique, que cela soit manifeste, qu'on trouve la femme dans des partis politiques, qu'on trouve la femme aussi dans des activités managériales ou entrepreneuriales, et qu'on trouve la femme partout dans la société, à l'école, et qu'on trouve aussi des professeurs femmes. Pour nous, la protection civile, nous devons encourager la femme. Et effectivement, parmi nous, on a des femmes. Nous allons leur demander, ceux qui n'ont pas parachevé les études, de continuer et de faire la lutte réellement pour que nous puissions avoir un monde égal où l'homme et la femme peuvent jouer les mêmes rôles, mais aussi tout en sachant que l'homme et la femme sont différents des sexes.
Nous sommes dans la même zone où plus d'une dizaine de cultivateurs du village Karuruma, village de la chefferie de Bachou dans le territoire de Béni, ont été saisis par l'ICCN et amenés en prison de Kangbaï depuis la semaine dernière. L'ICCN les accuse d'avoir franchi les limites pour se retrouver dans le parc. Face à ce énième incident, la société civile de la chefferie de Bachou plaide non seulement pour un dialogue communautaire de délimitation des terres, mais aussi de l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Moïse Kipoutoulou, président de cette structure citoyenne, a été joint au téléphone par Gilden Kassassia.
À l'égard des autorités pour la relaxation de ses compatriotes et de voir comment initier le mécanisme de dialogue avec la communauté afin de bien comprendre les causes, car ce dialogue communautaire pourra permettre à cette organisation de prendre des communautés riveraines et participatives pour que ces derniers puissent jouer aussi leur voix. Même les problèmes qui ont géré à l'État, c'est qu'il n'y a pas de retransmission de la part de l'État avec les villages riveraines, tant dans ce qui concerne la protection de ces aires protégées. Puisque nous avons aussi que ces aires protégées nous amènent beaucoup de choses qui pouvaient changer les vécus quotidiens des populations riveraines du parc national de Virunga à digne de construction des infrastructures modernes et autres. Mais la population dit, si la misère, c'est pourquoi elle est en train de pratiquer le chien vers le parc. Nous voulons que le gouvernement puisse créer une politique de gestion des agglomérations riveraines afin de leur participer à la gestion communautaire de ce parc.
Radio Okapi vous amène dans le fond du Maniema où il y a eu validation au week-end dernier du plan de développement local de la chefferie de Bangengele dans le territoire de Kailo. Ce plan qui sera mis en application pendant 5 ans, soit de 2021 à 2025, a été validé par différentes couches de la population qui représente cette communauté. Ce projet a commencé depuis 2019 sous l'appui financier de la GIZ en collaboration avec les services techniques de l'État. Florence Kizalunga nous en dit plus.
C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours que ce plan de développement local a été validé. Le chef de la chefferie, Linganja Athanasi Douglas, a remercié la GIZ pour son accompagnement et appelle la population de sa juridiction à se mobiliser pour la mise en application de ce plan.
Je m'engage à collaborer étroitement avec toutes les ONG. Pour les séminaristes, je leur demande de mettre en pratique les résolutions prises dans ces 2 jours qui ne peuvent pas se limiter dans nos tiroirs, mais et surtout de faire apprendre à notre population les bien fondés de notre rencontre.
Pour la communauté, c'était un sentiment de joie et de satisfaction.
Ce document constitue pour nous une guide, un répertoire de données pour tout ce que nous allons faire dans la chefferie de Bangengele.
Ce PDL, le livre que nous venons de valider aujourd'hui, notre boussole qui pourra nous aider à marcher durant les 5 ans dans le développement de notre chefferie. Ce que nous allons demander aux filles, aux fils de Bangengele de nous aider à pouvoir vendre ce livre afin que notre chefferie puisse aller de l'avant.
Notez que cet atelier s'est déroulé à Katako, 7 km de Kindu, en présence de l'administrateur du territoire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Place à présent aux nouvelles de sécurité et de justice. Nord Kivu, les FARDC ont délogé un groupe de miliciens Maïmaï qui occupait le mont Mungulungu en chefferie des Bachou. Nous sommes dans les territoires de Beni. L'armée a lancé un assaut sur cette position rebelle tôt le dimanche matin. Selon le président de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Beni, plusieurs cabanes érigées par ces miliciens sur cette montagne ont été détruites par les forces loyalistes. Moïse Kipoutoulou appelle les habitants de Makungwe et Isonga, deux agglomérations de cette partie de la chefferie des Bachou, à la dénonciation de tout mouvement suspect sur le mont Mungulungu. Cette information n'est pas encore confirmée par des sources militaires. Sud Kivu, à présent, les différentes communautés tribales de la province s'engagent pour la paix et la cohabitation pacifique. L'insécurité actuelle dans la ville et les territoires devra s'arrêter et l'État congolais doit s'investir dans la démobilisation et réinsertion des membres des groupes armés. Ces communautés tribales du Sud Kivu se sont exprimées hier dimanche à Bukavu au cours de la conférence sur la paix et entente mondiale. C'était une initiative du Rotary International dans le cadre de la résolution des conflits. Emmanuel Elamenjiwa Kabedi nous en parle.
La conférence des Rotary Club de la ville de Bukavu a porté sur la célébration de la paix et entente mondiale. Cette association philanthropique a associé une vingtaine de membres des communautés tribales du Sud Kivu. C'est notamment les Bashi, les Barega, les Babembe, les Bahutu, les Bahavu, les Babuyu, les Banyindu, les Bavira, même les communautés non originaires mais vivant au Sud Kivu. Ensemble, elles s'engagent pour la paix et la cohabitation pacifique.
La mutualité Havu regroupe les filles et fils de deux territoire Calais et Idjui. Elle prône l'amour, la cohésion sociale, l'unité et le développement pour l'émergence de tous les Bahavu et leurs frères d'autres communautés.
Les principales causes de l'insécurité étant la pauvreté, le chômage et le manque des infrastructures, les peuples Lega de Shabunda proposent ceci.
La population aspire au jour le jour à la paix et l'hospitalité dont elle fait montre prouve à suffisance sa disponibilité à vivre en paix avec d'autres communautés. La population de Shabunda demande de mettre sur place une structure de démobilisation et de désarmement communautaire et améliorer l'encadrement des immobilisés.
Le gouvernement provincial dit prendre acte et préparer maintenant le dialogue intercommunautaire pour inclure tous les fils de la province. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Nous nous retrouvons présentement dans la province de Lomami où un inspecteur chef de pôle urbain de l'enseignement primaire, secondaire et technique Epeste Kabinda ainsi que ses collaborateurs vivent en clandestinité depuis leur audition pour raison d'enquête la semaine dernière. C'est au parquet général près la cour d'appel. Les membres du réseau des personnes impliquées dans la création des écoles fictives dans la province de Lomami estiment que l'inspecteur les aurait surchargés au niveau de la justice. Des explications de Esther Dalafina.
Depuis son audition au parquet général près la cour d'appel de Lomami, cet inspecteur de l'EPST et ses collaborateurs ne cessent de recevoir des appels anonymes, des menaces de mort ainsi que des textos d'intimidation. Ils ont à cet effet décidé de vivre en clandestinité au lieu d'exposer leur vie. Leur péché dans cette affaire est celui d'avoir confirmé le rapport de leur première visite dans les écoles de Kabinda au cours du premier trimestre de l'année scolaire précédente. Cette visite avait pour but de se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans les écoles de la ville de Kabinda. L'inspecteur chef de pôle et ses collaborateurs avaient depuis cette époque identifié l'existence des écoles fictives ainsi que des arrêtés antidatés de recrutement des enseignants. Ils ont donc été les premiers à avoir alerté l'opinion sur cette situation irrégulière entretenue par certains hauts cadres provinciaux de l'EPST et des acteurs politiques. Cette situation s'est illustrée par l'arrestation le mois de février dernier de sept faux enseignants, du directeur provincial de l'EPST, celui du service d'encadrement, de contrôle et de paie des enseignants SECOP, ainsi que de son chef d'antenne urbaine, qui n'ont jamais prouvé leur innocence dans cette affaire. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous partons du Gabon où Lucie Milebou Aoubousson, épouse de Mboussou, 64 ans, a été réélue lundi présidente du Sénat, la deuxième chambre du Parlement gabonais, pour un nouveau mandat de 6 ans. Militante du Parti démocratique gabonais PDG, le parti au pouvoir au Gabon depuis 52 ans, Lucie Milebou Aoubousson était la candidate unique lors du scrutin. Elle a obtenu 65 voix sur 65 votants, soit 100% des voix. L'actualité hors du pays, c'est aussi au Mozambique où la ruée vers la nourriture est réelle dans les quartiers où de nombreuses personnes déplacées se sont installées avec des habitants. Près de 670 000 personnes ont été déplacées par l'insurrection extrémiste qui fait rage depuis 3 ans dans le nord du pays. Si certaines se sont installées dans les familles d'accueil et que d'autres vivent dans des abris temporaires, des déplacés se sont réinstallés dans les villages sécurisés nouvellement créés comme le camp de Marupa. Mais le manque critique de nourriture a poussé quelques courageux à retourner dans leurs anciennes maisons pour chercher d'autres produits alimentaires et parfois même travailler sur leurs anciennes terres agricoles.
L'invité.
Professeur Mouniambe Ninyembo Joseph, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu de Bukavu, est notre invité. Avec Sadiq Aboubakar, il parle des bonnes pratiques de gestion pour la bonne gouvernance. Suivez.
Professeur Mouniambe Ninyembo Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des bonnes pratiques de gestion des finances publiques au niveau de votre entité, votre commune de Kadutu, qui pourrait également profiter à d'autres ETD qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cet atelier d'échange d'expérience?
Ce qu'on peut retenir est que la commune de Kadutu, en tant qu'ETD, a connu une évolution positive en termes de gestion budgétaire et administrative. Gestion budgétaire, dans la mesure où on applique 3 principes. Qui n'existait pas avant, notamment la participation des citoyens à la gestion de la commune. La transparence dans la gestion budgétaire et la redevabilité. Avant, l'autorité communale constituait un problème, étant donné qu'il ne faisait pas participer la population au choix des priorités, au vote et à la mise en œuvre du budget participatif. Et c'est ce qui a attiré beaucoup plus de suspicions, beaucoup plus de critiques. Mais avec la capacitation de DAI USAID qui a renforcé la capacité en cette matière-là. 5 ans après, on a commencé à pratiquer, à mentaliser ces principes. Aujourd'hui, lorsqu'on élabore le budget, il y a une partie d'investissement qui concerne la population. Et le besoin doit venir de la base, à travers les différentes catégories sociales qui se trouvent dans notre commune. Ils expriment leurs besoins, eux-mêmes sélectionnent le besoin et ils les valident à travers une assemblée générale budgétaire. Après l'élaboration du budget, le budget est affiché. Le budget ne doit pas être un secret. Ce que le bourgmestre touche doit être connu. Ses avantages doivent être connus. C'est public. On ne doit pas les cacher. Et comment on affecte également les ressources, ça doit être connu. Nous, nous affichons. C'est la transparence. Et parce que quand vous cachez ce que vous faites avec les ressources publiques, ça va vous attirer des ennuis. Mais quand on voit ce que vous faites, vous êtes clair, vous ne cachez rien. Mais ces gens seront appelés à payer également.
Quels sont les principaux actes générateurs de revenus dans votre entité?
Il y a principalement l'étalage au sein de nos marchés communaux. La taxe journalière nous ramène environ 3 millions chaque semaine.
Donc, des francs congolais.
Et si vous le calculez, donc nous avons 12 millions à la fin du mois.
Quelle équivalence en dollars par exemple?
Vous divisez par deux. Donc c'est 6 000 dollars, hein, les taux actuels. Il y a cela. Nous avons également l'état civil où il y a des mariages. Le mariage également, nous en avons beaucoup. C'est une culture à Bukavu. Et ça nous ramène également de l'argent. Il y a également en troisième position, la taxe professionnelle annuelle. C'est une taxe qui pose problème également ici à Butembo, compte tenu du fait générateur. Et étant donné que sur l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 portant nomenclature des taxes et impôts de la compétence des ETD, lorsque vous exercez une activité commerciale dans une entité, vous devez contribuer au développement de l'entité. Donc, ça nous ramène également beaucoup d'argent. Évidemment, il y a des difficultés. Hein,
voilà, c'est par là que je voulais aboutir. Les défis auxquels vous faites face dans la gestion d'une manière quotidienne.
Le premier défi, c'est le défi général de la décentralisation. Les autorités au niveau national et provinciales n'ont toujours pas transféré les ressources. Alors que il n'y a pas de décentralisation sans décentralisation financière.
Alors, les bonnes pratiques que vous avez trouvées dans la gestion de la commune de Kimemi sont lesquelles?
Des pratiques principales que je qualifie de très bonnes. D'abord, il y a premièrement la volonté politique du bourgmestre de la commune de Kadoutou. Je lis
De Kimemi.
Merci beaucoup. Et je lis en lui une très bonne attitude à pouvoir changer et travailler en faveur de la population. Deuxième bonne pratique, je trouvais un arrêté portant création et fonctionnement du comité budgétaire élargi aux citoyens. C'est une très bonne chose. Ça n'existe pas. Chez nous, il y a confusion des rôles. On ne sait pas ce que doit faire l'autorité, ce que doit faire les marchés, c'est-à-dire le FEC, ce que doit faire la société civile. Mais ici, c'est précisé. Donc, c'est un modèle à copier. Et enfin, on a trouvé quand même qu'il y a une taxe à l'état civil qui est une source de revenus, mais que nous n'arrivons pas chez nous à pouvoir mettre à profit des ressources au niveau de la commune. On a trouvé ici lors de mariage l'attestation de célibat. Ça, c'est payé. C'est une bonne chose. Ça, je viens d'apprendre ici.
Professeur Mouniabe Ninyembo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition de journal de 15h sur Radio Okapi qui met aussi un terme à cette tranche d'information débutée depuis 10h. Élisée Chikota était à la préparation de toutes ces informations sous la supervision de Alain Irong Mouchinch et Billy Ivan Lutumba à la présentation. Cette équipe vous retrouvera encore demain à partir des 10h pour d'autres séances d'information. Mais tout de suite là, à 16h, vous retrouverez mon estimé confrère Nico Kalambay.